Place publique. La presse romande s'apprête à vivre plusieurs mutations importantes. Le groupe Tamedia va regrouper ses rédactions romandes, tandis que L'Express et L'Impartial envisagent de fusionner sous un seul et même titre. Le spécialiste des médias, Philippe Amédreau, est notre invité dans un instant. Place publique consacrera une large partie de l'émission à la question jurassienne. Il y a les recours déposés contre le vote de Moutier actuellement sur la table du préfet. Si une invalidation du vote semble peu probable, l'imbroglio juridique, lui, pourrait s'éterniser. Nous entendrons le professeur de droit constitutionnel de l'université de Neuchâtel, Pascal Mahon. Ce sera après les infos de 18h30. Et enfin, nous nous intéresserons, toujours pour la question jurassienne, à une autre votation liée à celle de Moutier. La commune voisine de la prévôté, Belpraon, choisira son appartenance cantonale le 17 septembre et nous verrons quels sont les enjeux de ce scrutin.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. La presse écrite en Suisse romande se restructure. Hier, on apprenait le regroupement des rédactions des quotidiens Le Matin et 20 minutes, avec 6 personnes licenciées, dont 4 journalistes. Aujourd'hui, nouvelle annonce, Tamedia va réunir les rédactions de 24 heures, la Tribune de Genève et du Matin Dimanche à Lausanne, dans le but de mettre en commun les rubriques suisses, internationales, économie et sport. Pas de nouveaux licenciements, en tout cas prévus cette année. Mais ce n'est pas tout. Vous le savez, la semaine dernière, nous vous apprenions que L'Express et L'Impartial, déjà très proches, envisageaient de ne faire qu'un, avec à la clé des départs à la retraite non remplacés. Alors pour commenter ces actualités, avec nous, Philippe Amédreau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur, enseignant au Media Lab de l'Université de Genève, spécialiste des mutations qui touchent la presse à l'ère numérique. Vous avez même publié un ouvrage sur la question. Alors, après la disparition de l'Hebdo et une saignée dans les équipes du journal Le Temps, voici un important regroupement des rédactions romandes chez Tamedia. On n'oublie pas, bien sûr, ce qui se passe du côté de Neuchâtel. Est-ce qu'à chaque fois, c'est la même logique économique qui est à l'œuvre ?
Oui, bien sûr, parce que, si vous voulez, depuis déjà quelques années, on observe le phénomène de la disruption que Internet a occasionné sur les modèles économiques de la presse écrite imprimée. Donc on a déjà eu passablement de secousses dans le secteur de l'imprimerie en premier. On oublie souvent que les imprimeries ont été, dans le secteur industriel de la presse, les premières victimes de cette concentration. Puis ensuite, il y a eu quand même passablement de rachats de groupes. Je vous rappelle le rachat de Edipresse déjà de quelques dizaines d'années maintenant par Tamedia pour presque un demi-milliard de francs. Donc il y a eu aussi des regroupements régionaux, il y a des alliances, des partenariats, il y a aussi des recherches, on appelle ça la syndication de contenu, qui font que des journaux comme La Liberté de Fribourg, une alliance par exemple avec le Nouvelliste pour un partage de contenu. Donc c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, mais on a un sentiment d'accélération. Évidemment, si les informations ou les effets d'annonce se succèdent avec une telle rapidité, c'est que probablement il y a déjà un contexte. Il y en a au moins deux de contexte. C'est la prochaine publication des résultats de Tamedia. Et on sait que les revenus publicitaires sont en chute libre déjà depuis 2 ans. Il y a une contraction du bénéfice de 67% en 2016 pour Tamedia, une contraction qui est encore plus grave, à mon avis, du chiffre d'affaires, et tous les revenus issus du secteur numérique, tout confondu, ne compensent pas finalement la baisse des revenus publicitaires dans le segment des journaux imprimés.
Donc il n'est pas,
en quelque sorte, des baisses de revenus et une situation où les coûts restent relativement élevés.
Mais le nombre de lecteurs reste relativement stable, voire pour certains progresse. Alors on parle bien sûr de la baisse des revenus publicitaires, mais il y a aussi de l'argent entre guillemets à se faire dans le numérique, la preuve, la diversification de ces groupes de presse qui investissent dans des plateformes. Vous dites que ça ne suffit pas à compenser les pertes de la presse, mais pourquoi l'un ne vient pas plus nourrir l'autre ?
C'est une excellente question, tout simplement parce qu'il y a déjà depuis pas mal d'années, Ringier l'avait fait également lorsqu'ils avaient restructuré un petit peu leur secteur éditorial, entertainment ou divertissement si vous préférez, et e-commerce, on dirait que ce sont un peu des silos dans lesquels chaque direction doit générer ses recettes, ses profits et en même temps gérer ses coûts, et que si l'un est bénéficiaire, il ne viendra pas au secours de l'autre silo. Et en quelque sorte, on a constaté cela aussi bien pour les secteurs de l'impression, aussi bien pour le secteur, si vous voulez, de tout ce qui est relatif au développement de la presse régionale en termes de distribution. Donc les coûts de distribution aussi ont amené un certain nombre de titres à revoir leur distribution, parce que ça, c'est un vrai problème. Et troisième chose, c'est que les revenus issus du numérique ne le sont pas tellement par la publicité des journaux, mais le sont par les petites annonces dans des plateformes spécialisées qui, quelquefois, ne sont même plus rattachées juridiquement à l'éditeur historique. Donc, si vous voulez, cette espèce de compartimentage un peu artificiel me fait penser un peu au Titanic, où on a l'impression que, si vous voulez, en montant les barrières, on arrivera à éviter qu'une partie du bateau ne coule. Mais en l'occurrence, pour l'instant, on a l'impression, si vous voulez, qu'on est simplement en train de mettre les passagers sur un autre bateau, qu'on appelle le bateau numérique, et puis qu'on laisse partir à l'eau le bateau print.
On retient l'image. Alors, on revient près de chez nous avec l'annonce du projet de réunion de l'Express et l'Impartial, qui sont déjà très proches au niveau éditorial, mais qui pourraient être réunis sous un seul et même titre. Oui. Est-ce qu'il faut y voir un appauvrissement ? Parce que la société neuchâteloise de presse, elle met en avant un véritable projet éditorial qui pourrait réunir même un lectorat, un canton, dont on sait qu'il est divisé.
Oui, bien entendu, mais les spécificités des plumes, aussi l'existence de pages commentaires ou de lettres de lecteurs, enfin, si vous voulez, l'expression du haut et du bas du canton, hein, moi-même étant originaire de la Chaux-de-Fonds, je comprends un peu la sensibilité du haut par rapport à celle du bas, mais je rappelle qu'il y a eu la fusion du Démocrate et du Pays pour donner la naissance au quotidien jurassien, et que le quotidien jurassien, à mon avis, est un excellent quotidien régional qui reflète très bien la diversité politique gauche-droite de ces différents citoyens, et que c'est quand même d'abord un outil d'expression de l'identité jurassienne. Et je crois qu'un seul quotidien neuchâtelois ne serait pas sous l'angle de l'arc jurassien ou de l'arc franc-montagnard, enfin de toute la zone du plateau, ne serait pas une catastrophe. En revanche, il faudrait des identités de pages locales, d'expression, avec des alliances radio et télévision locales fortes.
Dans l'arc lémanique, on le voit, on assiste, comme vous dites, à une accélération, à une concentration. Dans l'arc jurassien, on peut observer que les stratégies diffèrent quasi du tout au tout. Alors, il y a les journaux neuchâtelois qui misent sur le web avant le papier, qui va finalement s'adapter au online. Et aux antipodes, on a le quotidien jurassien qui ne jure, pour ainsi dire, que par le papier. Et le web ne sert qu'à le mettre en valeur, ce papier. Qui a raison, qui a tort ?
Bon, je pense que si vous voulez que dans l'immédiat par rapport aux recettes publicitaires issues du papier, c'est une stratégie de gérer ce qu'on appellerait l'érosion tant du lectorat, parce qu'il y a une érosion, et puis en même temps aussi de contenir ce qu'on appellerait la dégradation de la valeur, parce que lorsque vous mettez un contenu sur Internet, il y a une forte pression à la dévalorisation par le prix de la publicité sur Internet. Parce qu'au fond, si vous avez quelque chose qui a de la valeur, qui est rare, et que vous voulez lui détruire sa valeur, vous le mettez immédiatement sur Internet. Parce que la pratique de ce qu'on appelle en économie des médias, du coût marginal zéro, c'est-à-dire tout ce qui est sur Internet est accessible à des millions, voire à des centaines de millions, voire à des milliards d'individus, et qu'automatiquement, il y a une dégradation de sa valeur. La guerre des tarifs publicitaires sur Internet fait rage, et à moins d'être 20 minutes, puis d'avoir une audience nationale et de pouvoir faire ce qu'on appellerait une politique des prix, où vous êtes vraiment price maker, c'est-à-dire où vous décidez le prix, aujourd'hui, ce sont les annonceurs qui tiennent le couteau par la manche, et que, d'une certaine manière, au niveau régional, vous avez tout intérêt à encore conserver la politique tarifaire que permet le papier. Sur Internet, c'est hors de contrôle.
Donc le quotidien jurassien, à vous entendre, a raison de retarder...
Pour un certain nombre d'années, au niveau d'une stratégie qui sera de toute manière, à terme, numérique pour ce qu'on appellerait l'accessibilité de ces contenus journalistiques pour ces lecteurs qui sont par ailleurs des jurassiens aussi expatriés, etc., et qui sont intéressés par la lecture du quotidien jurassien. Mais c'est déjà le cas, la possibilité est déjà offerte. La question, si vous voulez, c'est de savoir à quel point il faut tout basculer les contenus, à quel point il faut avoir des murs payants, comme on les appelle, des paywalls, et qui permettent, si vous voulez, de restreindre l'accessibilité au contenu par la gratuité. Et c'est tout le problème du débat entre journaux payants et journaux gratuits. On sait que si vous êtes gratuit, ben, vous avez forcément besoin d'avoir une taille qui est à peu près celle de Marc comme 20 minutes ou Blitz.
Place publique.
Et on retrouve Philippe Amédreau, expert des médias, spécialiste des mutations qui touchent la presse à l'ère numérique. Et Dieu sait si l'actualité nous rattrape à ce niveau-là. Philippe Amédreau, vous l'avez dit, ces annonces n'interviennent pas n'importe quand. Il y a un contexte politique, notamment autour de la redéfinition du service public et des aides qu'on octroie à la radio-télévision suisse.
Oui,
et aux médias régionaux aussi, Radio-TV, bien sûr.
Absolument. Il y a une problématique qui est très simple pour la résumer. C'est que la SSR-SRD reçoit, si vous voulez, une redevance de l'ordre de 1,2 milliard, mais peut également vendre de l'espace publicitaire, et ça représente quelques centaines de millions de francs. Et depuis que la SSR a ce que j'appellerais une page internet extrêmement bien faite, d'ailleurs, qu'elle voudrait bien pouvoir commercialiser également, on a depuis à peu près 2002 une guerre assez forte entre les éditeurs et la société suisse de radio-télédiffusion.
Et ces annonces peuvent provoquer une prise de conscience au niveau politique pour repenser justement l'aide à la presse, tandis que tout le monde
se trouve sur le web. Elle a déjà eu lieu à travers le débat d'une prise petite, d'abord 4%, je crois qu'on parle de 6% de redistribution de la redevance pour les médias audiovisuels de proximité, donc les radios locales, les télévisions locales. Ça, c'est une petite manne, mais qui a permis, selon quand même un principe de concession qui est rigide, et on ne donne pas l'argent, on le jette pas par les fenêtres, si je puis dire. Donc, vous connaissez le système, il faut quand même qu'il y ait de la pratique journalistique, il faut qu'il y ait du contenu, etc. Donc, d'une certaine manière, on voit très bien que ce modèle-là est intéressant pour les radios qui sont cette manne fédérale, étatique, aurait peut-être eu des difficultés à trouver par la seule publicité ou la vente peut-être d'autres services le moyen de survivre. La question est, est-ce que pour la presse régionale, pour les petits éditeurs indépendants, un jour on doit envisager un soutien étatique direct? C'est une question ouverte. Je pense notamment qu'on peut avoir une réflexion à l'échelon du débat qui aura lieu en 2018 autour du renouvellement de la concession de la SSR sur la nécessité pour les médias qui en feraient la demande et exclusivement dans le cadre d'une enquête qui ferait la démonstration qu'ils ont bien un contenu journalistique, qu'il y a bien intérêt public, qu'il y a bien une représentativité locale ou régionale, bref, toute une démarche qui serait aussi là pour éviter de gaspiller de l'argent public, que d'une certaine manière, on pourrait imaginer, à défaut de pouvoir, garantir la survie, au moins permettre à des titres de trouver, durant une période intermédiaire, le moyen de réussir leur mutation numérique. Je crois que, si vous voulez, il faut trouver un peu un matelas qui permet à des petits éditeurs qui représentent quand même bien leur région de réussir leur mutation numérique, c'est-à-dire de basculer une partie ou la totalité de leur contenu en ligne, sachant qu'à ce moment-là, ils perdent de la valeur et que toute la recette publicitaire issue de l'imprimé pourrait leur manquer.
On vous a bien compris.
C'est une question intéressante.
Philippe Amédraud, merci infiniment. Hein, on le rappelle, vous êtes chercheur, enseignant au Media Lab de l'Université de Genève. Merci d'avoir commenté avec nous ces mouvements quasi tectoniques dans la presse suisse, la presse romande, qui n'ont pas l'air de vouloir se terminer. Hein. D'autres annonces pourraient suivre, en tout cas si on en croit le journal Le Temps. On vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.
Merci, bonne soirée à vous. Au revoir.
Place publique.
On l'apprenait hier, la question jurassienne sera réglée cet automne sur le plan institutionnel, du moins. Les cantons de Berne et du Jura ainsi que la Confédération se sont mis d'accord pour dissoudre l'Assemblée interjurassienne, un organe créé il y a 23 ans pour résoudre politiquement le conflit jurassien. Pour marquer le coup, une cérémonie doit se tenir le 10 novembre à Moutier. Il y aura des représentants des deux cantons sur place et la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Ils signeront un document ce jour-là. Mais dans les faits, pourtant, rien n'est encore joué. Beaucoup d'inconnus subsistent. Le vote de Moutier est contesté par 12 recours actuellement sur la table du préfet. Et potentiellement, le scrutin du 18 juin pourrait être annulé et les prévotois devraient revoter. De plus, les deux communes de Belpraon et de Sorvilliers se prononceront, elles aussi, le 17 septembre sur leur appartenance cantonale. Et rien ne dit que d'ici là, le sort de Moutier soit scellé. Alors, voilà qui pose des problèmes juridiques. Alors, pour tenter d'y voir clair, nous vous proposons maintenant l'analyse de Pascal Mahon, professeur ordinaire de droit constitutionnel à l'Université de Neuchâtel. Nous l'avons joint tout à l'heure.
Pascal Mahon, bonsoir.
Bonsoir.
12 recours sont sur la table du préfet pour annuler le scrutin. Le vote a pourtant fait l'objet de mesures de surveillance hors normes pour assurer un dépouillement irréprochable et pour éviter toute réclamation. Est-ce qu'à vos yeux, il est plausible que les prévotois vraiment doivent revoter?
Alors, quand le résultat d'une votation est contesté par voie de recours, comme c'est le cas ici, il est toujours éventuellement possible qu'il y ait une obligation de revoter, même si dans la réalité, c'est assez rare qu'il y ait effectivement un nouveau vote. Et cela s'explique par le fait que la jurisprudence du tribunal fédéral pose à ce propos des exigences ou des conditions assez précises. Alors si on veut essayer de résumer cette jurisprudence, il faut d'abord rappeler ce qui est en jeu ici, c'est le droit fondamental de ce qu'on appelle la liberté de vote, qui est garantie par la Constitution fédérale à son article 34, Et ce droit fondamental permet, selon le tribunal fédéral, d'exiger, donc permet à tout citoyen, d'exiger, je cite, qu'aucun résultat de votation ou d'élection ne soit reconnu s'il ne traduit pas d'une manière fidèle et sûre la volonté librement exprimée du corps électoral. Fin de citation. Et de ce droit fondamental ainsi formulé de manière assez générale, on déduit toute une série de principes ou de droits plus concrets, si vous voulez, comme le droit à ce que les questions posées soient formulées de manière claire et correcte, le droit au respect de l'unité de la matière, le devoir d'exactitude et de réserve des autorités dans la campagne, le droit des citoyennes et des citoyens à la composition correcte du corps électoral, le droit à un déroulement correct du scrutin et à une constatation correcte des résultats de ce scrutin, etc., avec un droit au recomptage éventuellement des résultats d'une votation dans des circonstances particulières, notamment lorsqu'il y a des irrégularités ou lorsque le résultat est extrêmement serré.
Alors, si on passe en revue les différents recours déposés, qu'il s'agisse de prise de position des autorités jugées partisanes ou bien d'irrégularités liées à la tenue même du scrutin, est-ce qu'il y a, selon vous, dans les recours, les 12 recours qui sont déposés, certains qui peuvent d'emblée être écartés ?
Alors, je pense qu'il y en a quelques-uns qui peuvent d'emblée être écartés. Par exemple, la question du feuille de route non respectée, quart de voix, c'est pas suffisant, car la majorité absolue n'est pas atteinte. C'est pas très clair, enfin, ce qui est visé, mais l'idée, c'est que c'est la majorité des personnes qui ont pris part au vote qui décide, et non pas la majorité des électeurs inscrits. Ceux qui ne participent pas ne sont pas comptés. Ils n'ont jamais été comptés dans les votations en Suisse. Donc, ce genre de grief, si vous voulez, peut être écarté, me semble-t-il, assez vite. Je précise que je n'ai pas vu les recours, donc je ne sais pas si c'était exactement ce grief-là, mais certains peuvent être écartés assez vite. Il y a plusieurs griefs qui portent sur ce que les autorités communales, le maire de Moutier ou d'autres, auraient dit ou exprimé dans la campagne. Alors là, on tombe évidemment dans le principe que j'ai évoqué tout à l'heure du devoir de réserve des autorités. Il y a une jurisprudence assez abondante du tribunal fédéral qui précise ce que les autorités peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire avant, dans une campagne. Alors, elles ne peuvent pas intervenir de manière illicite, mais elles ont le droit de s'exprimer, de sorte que ces arguments-là aussi me sembleraient devoir être écartés. Encore une fois, il faudrait voir de manière précise quels sont ces griefs.
On l'entend bien. À l'inverse, quels recours, quelles accusations vous semblent les plus graves ou les plus à même de provoquer un nouveau scrutin ?
Alors, si y a un des recours qui semblerait, ou je ne sais pas si c'est un seul des recours ou plusieurs, qui parle de vote monnayé, alors là, ça pourrait être, si c'est avéré, effectivement, plus grave. Encore une fois, n'ayant pas vu les recours, c'est assez difficile de s'exprimer.
137 voix, c'est par le camp du oui ou celui du non. Alors si l'infraction dont on parle était avérée, faudrait-il qu'elle porte sur un nombre de voix équivalent ?
Alors, en ce qui concerne la sanction de ces éventuelles violations des droits politiques ou de la liberté de vote, hein, comme je les ai expliquées tout à l'heure, le tribunal fédéral a aussi une jurisprudence assez claire qui est discutée dans la doctrine et qui consiste à dire que la constatation d'une violation, notamment d'irrégularité dans la procédure ou d'intervention illicite dans la campagne, ne conduit pas nécessairement à l'annulation et à la répétition d'un scrutin. Selon la pratique du tribunal fédéral, une votation ou une élection ne peut ou ne doit en effet être annulée ou suspendue en règle générale que lorsqu'il est vraisemblable que l'irrégularité constatée a influencé ou aurait pu, avec une vraisemblance certaine, influencer le résultat de manière essentielle. Donc, même si on devait constater des irrégularités, il faudrait encore vérifier qu'elles aient pu ou elles aient eu une influence essentielle sur le résultat. On peut renoncer à l'annulation lorsque la probabilité d'un autre résultat des urnes est à ce point faible qu'elle ne peut sérieusement être prise en considération. Alors évidemment, la différence de voix joue un rôle. Plus la différence est faible, plus on peut supposer qu'une irrégularité, si elle est avérée, encore une fois, peut avoir eu une influence sur un résultat de scrutin.
Admettons que ce soit ce scénario spectaculaire qui ait lieu, que le scrutin soit invalidé, là encore, un recours contre cette décision serait possible.
Oui, un recours contre la décision du préfet serait possible, s'il admettait les recours et annulait la votation. dans le cas inverse aussi d'ailleurs, hein, à supposer que le préfet rejette les recours tous et valide indirectement la décision, bah, y a un recours qui est possible aussi.
Pour corser le tout, les citoyens de Belle-Praon, tout comme ceux de Sorvillers, mais on va se concentrer sur ceux de Belle-Praon, se prononceront sur leur appartenance cantonale le 17 septembre, sans savoir forcément si Moutier est fixé sur son sort, contrairement à ce qui était prévu. Alors, quelles conséquences, si c'est le cas, pour cet autre scrutin? Est-ce que là, on s'achemine vers un véritable imbroglio juridique?
Alors, c'est la question qui me paraît peut-être la plus délicate, si vous voulez. Et cela, quelle que soit l'issue des recours, parce que comme on vient de le voir, il peut y avoir recours contre la décision du préfet, quelle qu'elle soit. Hein, dans les deux cas, un recours est possible contre la décision du préfet. Ce recours pourrait monter jusqu'au tribunal fédéral. Donc il est assez peu probable finalement qu'on ait une décision définitive concernant Moutier avant la date de la votation pour la commune de Belle-Praon ou celle de Sorvillers. Dès lors, on peut imaginer que si la votation de Belle-Praon ou de Sorvillers a lieu à cette date, le 17 septembre, et quel que soit son résultat, il y aura certainement quelqu'un dans le camp des perdants, quel qu'il soit, pour recourir contre le résultat de cette votation en se plaignant que le résultat du vote à Belle-Praon ou à Sorvillers a été faussé par le fait qu'on ne connaissait pas définitivement la décision de Moutier. Ah, donc c'est effectivement une question assez délicate qui se pose là, à mon avis. En même temps, d'un autre côté, si vous voulez, la loi bernoise sur l'organisation des votations relatives à l'appartenance de certaines communes du Jura bernois, donc qui prévoit ce mécanisme, prévoit un délai dans le cas où les votations sont réparties sur deux dates, comme c'est le cas, comme ça a été décidé, si vous voulez. La seconde votation donc, doit avoir lieu dans les 3 mois à compter de la date du premier scrutin. Donc là, il y a un petit problème, si vous voulez, pour les autorités, qui est de respecter à la fois ce délai de 3 mois et d'avoir un peu un risque qu'il y ait des recours contre les votations à Belle-Praon, à Sorvillers.
Beaucoup d'inconnus, des risques, comme vous le dites. Et néanmoins, politiquement, et on va en terminer avec ça, politiquement, on a l'impression que les gouvernements et la Confédération ont acté la votation de Moutier, font tout comme si c'était tranché. Est-ce que c'est aussi votre impression, le résultat est entériné?
Alors, ça me paraît assez logique par rapport à ce qui avait été convenu. Donc, il avait été convenu que le résultat, quel qu'il soit, mettrait fin à la question jurassienne, si vous voulez. Hein. C'était un peu ça, le projet ou la déclaration d'intention. Donc, il ne me semble pas qu'il y ait une contradiction. Évidemment, il y a quelques aléas juridiques qui se posent, mais les tribunaux les trancheront et puis la décision restera, quelle qu'elle soit, définitive d'une certaine manière. Donc, je ne vois pas de contradiction ou de problème dans l'attitude des autorités que vous évoquez.
Pascal Mahon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée.
Merci de même.
Et on évoquait Belle-Praon avec Pascal Mahon, ça rime. Belle-Praon, village de 300 habitants, dont 240 ont le droit de vote. C'est situé à quelques centaines de mètres si on longe la route cantonale de Moutier. Et tout comme Sorbillers, une autre commune du Jura bernois, eh bien Belle-Praon, vous l'avez entendu, se prononce dimanche 17 septembre sur son appartenance cantonale, 3 mois après le vote de Moutier. Alors pour en parler, Haute-Sauvin est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du comité Belle-Praon dit oui. Alors, c'est assez spécial, assez particulier, je vous fais réagir à ce que nous venons d'entendre. Avant même qu'on connaisse le résultat, on est déjà quasi assuré qu'il y aura un recours.
Alors, on a effectivement entendu de la part de M. Mahon que la question était extrêmement délicate en ce qui concerne ce flou juridique hein, qu'on a nous-mêmes aussi dénoncé. Je peux justement vous parler de la position du comité de Belle-Praon. On dit oui par rapport à ce flou juridique. Nous regrettons effectivement que les citoyens de Belle-Praon aient à se prononcer alors même que le vote de Moutier n'est pas validé complètement. On a pour cette raison écrit un courrier au préfet en lui demandant d'agir avec la plus grande diligence pour traiter ces recours. On aurait souhaité que tous les recours soient écartés au moment où on reçoit au moment du vote et même au moment où on reçoit le matériel de vote. Voilà, ça n'a pas pu être le cas puisqu'on a reçu le matériel de vote hier. C'est une situation particulière. Il se peut qu'il y ait des recours, ça a été dit. C'est une voie qui est ouverte pour le dépôt de recours, mais actuellement, nous, au niveau du comité, on ne travaille pas là-dessus. On a à cœur de faire une belle campagne, de développer nos arguments, et puis on verra par la suite ce qu'il adviendra.
Et on va en parler de ces arguments, mais avant, un mot sur la campagne, puisque les opposants à rattachement de la commune au canton du Jura ont préféré décliner notre invitation. Ils ne souhaitent pas débattre au risque de, je cite, « jeter de l'huile sur le feu ». Et pourtant, pourtant, tout le monde jusqu'à présent souligne le bon ton de la campagne. Comment vous interprétez cette réaction de la part de vos opposants ?
Oui, alors c'est une absence que le comité Belprat, on dit oui, regrette clairement. On trouve même qu'il s'agit là d'une attitude assez incompréhensible.
Vous êtes à couteau tiré ?
Non, pas du tout. Au contraire, justement, la campagne se déroule, il semble, très bien. On a à cœur de maintenir le climat du village qui est excellent. On a justement pu voir aussi que les gouvernements bernois et le gouvernement jurassien avaient clairement joué le jeu et on regrette que ce ne soit pas le cas de nos opposants.
Alors, on va parler maintenant des arguments. Alors, parmi les enjeux de ce vote, il y a la question de la fiscalité qui figure en bonne place. Et pourtant, vous en avez parlé, les deux gouvernements qui se sont déplacés dans votre village la semaine dernière pour rencontrer la population s'accordent à dire que la différence dans un canton ou dans l'autre serait minime pour les habitants. Il y aurait certes des catégories qui perdraient, en tout cas une en particulier, les célibataires gagnant plus de 150 000 francs par année. Ça veut dire que ça ne fait pas le poids, ce n'est pas un argument important au final, la fiscalité ?
Je ne sais pas si c'est un argument... je ne crois pas que ce ne soit pas un argument important. Pour certaines familles, ça reste un argument important. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on est à répéter toujours la même chose, c'est-à-dire ce qui a été prouvé par le rapport des experts. Il faut rappeler que ce rapport des experts a été établi par des experts neutres durant la campagne de Moutier. Et elle est extrêmement claire sur le fait qu'il y a une différence... Les différences sont minimes, mais et elles sont même... plutôt en faveur du canton du Jura. Et puis, on a pu voir que la stratégie de nos opposants, c'était aussi d'isoler un petit peu des chiffres, d'utiliser ces chiffres de manière à faire un petit peu peur. Et effectivement, ça peut inquiéter, mais là encore, on peut rassurer les gens. La situation a été clairement démontrée, ce n'est pas contestable, et leur stratégie est d'autant plus étonnante que M. Poulvert, comme vous l'avez dit, l'a dit en termes de chiffres, la différence entre les avantages et les inconvénients est au final faible et elle peut changer très vite.
Alors on va les entendre, ces opposants, quand même s'ils ne sont pas présents en direct. Il n'y a pas, selon eux, que les impôts qui poseraient problème en cas de rattachement au canton du Jura. On va écouter Werner Lutti, membre du groupe pour la défense des intérêts de Belpraon.
En tout point de vue, que ce soit surtout assurance maladie, là, c'est le grand morceau. On a les voitures, et puis la majorité des citoyens de Belprat, ils ont deux, voire deux motos. Puis si on fait le calcul, alors ça fait un joli saladier à la fin de l'année.
Qu'est-ce que vous leur répondez, Oudsovin ? Finalement, aller dans le Jura, ça va coûter un peu ?
Mais c'est effectivement l'argument qu'on entend tout le temps. Aller dans le Jura, ce serait être largement perdant au niveau financier. Or, cet argument est complètement faux. Il a été démontré par ce rapport des experts que ce n'est pas le cas. Et bon, il met en avant des chiffres isolés, mais je crois qu'on peut comparer dans les deux côtés, et ça a été dit aussi par les deux gouvernements, on peut comparer d'un côté un élément particulier et trouver en faveur, que ce soit en faveur du canton du Jura ou de l'autre côté, que ce soit en faveur du canton de Berne. Et on peut continuer cette bataille des chiffres pendant un moment. M. Poulvert nous l'a dit encore l'autre jour, je crois qu'il faut un petit peu arrêter de se cristalliser autour de cette bataille de chiffres et tenir compte finalement de ce qui a été démontré clairement. Et par rapport à ce qui a été dit au niveau de l'assurance maladie par exemple, et au niveau des différents calculs, c'est peut-être plus intéressant de comparer finalement ce que les personnes ont réellement une fois qu'elles ont payé toutes leurs charges. Et là, on parle de pouvoir d'achat, et en termes de pouvoir d'achat, là aussi, le rapport d'expertise montre que la situation est beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais est favorable dans le canton du Jura. Les différences ne sont pas si importantes, mais elles sont en faveur.
Alors, si Belprat ont changé de canton et allait dans le Jura, c'est une chose, mais si elle restait bernoise et que Moutier partait dans le Jura, eh bien il y aurait une frontière cantonale qui passerait entre les deux localités. Est-ce que ça poserait problème? Pas forcément, on retrouve Werner Lüthi, membre donc du groupe pour la défense des intérêts de Belle-Prahan.
Les élèves iront toujours dans une école, que ce soit ici à Belle-Prahan, à Moutier. D'ailleurs, il existe des conventions intercantonales de toute la Suisse, et puis c'est magnifique. À la piscine, on ira toujours. L'eau de Moutier, ben, on en boira toujours, que ça passe au oui ou au non.
À vous entendre, une frontière cantonale entre Belle-Prahan et Moutier ne serait pas préjudiciable pour Belle-Prahan.
Moi, je ne vois pas pourquoi. Il n'y a aucune frontière. C'est comme on en parle depuis Belle-Lurette. Il n'y a pas non plus un Rochtigraben en Suisse.
Werner Lüthi qui répondait à François Comte, Haute-Sauvin. Donc, est-ce vraiment si important que cela de suivre l'exemple de Moutier au cas où le vote se confirme? Est-ce que les dossiers comme l'école, les forêts, les eaux usées et compagnie, est-ce que tout ça en pâtirait si vous restiez bernois?
Alors, il est clair qu'on peut trouver des solutions dans les deux cas de figure, mais je pense qu'on peut comparer ces deux cas de figure de manière pragmatique. On a d'un côté une ville de 7700 habitants, la ville de Moutier, qui est pour Belle-Prahan notre ville-centre, et effectivement, on ne souhaite pas qu'il y ait une barrière cantonale entre Belle-Prahan et Moutier. Et puis de l'autre côté, on a quelques villages qui représentent un ensemble de 1500 habitants. Et je crois qu'il y a un véritable renversement, parce que maintenant, nous savons ce que nous aurons du côté du gouvernement jurassien, pardon, qui a donné des garanties claires, et ça nous permet justement de nous prononcer en toute connaissance de cause. Il y a un renversement dans le sens où l'inconnu maintenant se situe plutôt du côté du Cornet. Finalement,
L'autre côté, du côté de l'Est.
Voilà, c'est les communes qui n'ont pas, qui ne peuvent pas actuellement se prononcer sur leur appartenance cantonale. Donc il y a Échères, Grandval, Crémines et Corcelles. Et puis, ces communes vont effectivement rester bernoises. Nous pouvons envisager des collaborations avec eux, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir choisir la table de négociation à laquelle on souhaite s'asseoir. Et c'est beaucoup plus avantageux pour Belle-Prahan de s'asseoir à celle de Moutier, une ville de 7700 habitants qui va connaître un essor important, qui sera la deuxième ville du canton du Jura, et avec les garanties justement du gouvernement jurassien, plutôt que de s'asseoir avec un petit village qui va avoir quand même des difficultés à négocier avec une ville et un canton beaucoup plus important. Et là, en termes de rapport de force, je crois que ce serait largement en notre défaveur que de négocier aux côtés des petits villages plutôt que de rester lié avec Moutier, avec qui on a vraiment des liens étroits actuellement.
Un argument de politique pragmatique. On va terminer rapidement avec peut-être un pronostic. On l'a dit, 240 votants inscrits. Ça s'annonce très serré apparemment. Haute-Sauvin, vous jouez quel pronostic aujourd'hui?
Oh, on ne sait pas exactement, hein, mais on se veut confiant, mais je ne vais pas vous annoncer des chiffres ou des pourcentages.
Ça va se jouer à 10 voix, 5 voix, à 20, 50.
Ça peut être extrêmement serré, mais le comité Belle-Prahan dit oui, est quand même confiant sur l'issue du résultat.
Merci infiniment, en tout cas, Haute-Sauvin, d'avoir représenté ce comité. Merci de nous avoir rejoints dans Place Publique. On va suivre, bien sûr, la suite de cette campagne pour Belle-Prahan, mais aussi Sorvilliers, hein, qui vote aussi sur son appartenance cantonale. Ce sera le 17 septembre. C'est tout pour Place Publique. Merci à tous nos invités. Merci à Nadia Chmirou pour la réalisation. Vous allez retrouver cette émission en tout temps sur nos sites internet rjbrtn et rfj.ch, ainsi qu'en podcast. Et dans un instant, le flash de 19h, ce sera avec François Comte.
Place Publique.